Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Comme chaque week-end, nous vous proposons de revivre les moments phares de la semaine passée en compagnie de Mathieu Noël et de ses invités, sa complice Eva Rocchella, bien évidemment, les journalistes d'Europe 1 également, en compétition avec leurs meilleurs sujets sous le coude. Objectif, plaire, convaincre, captiver l'invité. Alors justement, du côté des invités, ils étaient parmi nous cette semaine, le trompettiste Ibrahim Malouf, le chroniqueur musical et compositeur Alex Jaffré, deux membres d'IAM, Akhenaton et Shuriken, et puis le médecin Patrick Peloux, et c'est avec l'humour humoriste Le Comte de Bouderbala que s'ouvre cette compilation de la semaine. C'était vendredi dernier lors de l'émission En Public.
Ce public en folie, cette ferveur unanime, ça me rappelle. Oui. Ah oui, oui, vraiment, ça me rappelle mon shoot à 3 points à la dernière minute du derby Genève-Lausanne en 2003. La détente est pure, le temps s'arrête, la trajectoire de mon tir est une cloche parfaite, un peu comme moi. À 7 mètres près, je marquais le panier. Et là, c'est le pare-brise d'une Jeep Cherokee garée trop près du stade qui a pris.
Oh, c'était bête, je crains d'avoir été maladroite.
Fin de ma carrière de basketteur. Aujourd'hui, avec nous, un sportif un peu plus doué. Il publie Amazing, le récit justement de son aventure américaine au plus haut niveau du basket universitaire. On applaudit le Comte de Bouderbala. Alors, cher Comte, vous le savez, quelle que soit la discipline, on ne se hisse pas au plus haut niveau en étant fair-play. Il faut savoir jouer des coudes et déstabiliser l'adversaire, ce qu'a parfaitement compris la redoutable Ève Roger. Actuelle leader du championnat européen, véritable terreur des micros, qui n'hésite pas à dénigrer le travail des concurrents pour triompher comme mardi.
C'est pas que je le trouve très très bon mon sujet, mais je trouve que les trois autres sont très mauvais.
Ève Roger, ce soir, vous avez encore un sujet gagnant, car
ça
bougrement...
n'a pas marché. Hein.
Ah non, ça n'a pas marché la fois, vous avez perdu pour une fois. C'était une de vos rares défaites. Il faut rebondir aujourd'hui.
Il faut être gentil. Ouais.
Alors, Ève, on pressentait que trop d'écrans nuisaient au développement de nos enfants, mais entre pressentir et en avoir la certitude, il y a un pas qui, semble-t-il, vient d'être franchi.
Avant 6 ans, c'est simple, aucun écran.
Avant 6 ans, avant on disait 3 ans.
6 ans maintenant. Même 10 minutes de dessin animé par jour, zéro.
Non.
Écran noir.
Mais comment vous faites dans un trajet en voiture? Il faut bien leur donner l'iPad.
Eh ben non.
Sinon, ça, c'est.
Ah vous, aviez pas vous, vous aviez un iPad, vous, dans la... quand vous étiez petit, dans la voiture? De papa
non.
et maman?
J'avais
radio
des cassettes. J'avais
et
des
voilà.
cassettes avec
voilà.
les mots bleus.
Qui et voilà.
Avec des belles chansons de Charles Aznavour aussi.
Voilà. Radio, Christophe Ondelatte, au choix.
D'accord.
C'est pas,
donc
c'est pas
avant 6 ans, c'est le messenger,
zéro.
On va dire, pas d'écran.
Zéro. Après 6 ans, et ça vaut jusqu'à 18 ans, parce qu'après, on ne les contrôle plus, c'est entre une demi-heure et une heure par jour. Pas plus, je répète. Une demi-heure et une heure par jour. Alors, je sais ce que vous pensez. C'est à la fois radical et complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe. Parce que déjà, ben oui. aujourd'hui, à 2 ans, c'est 50 minutes de télévision par jour.
Mais
3 heures entre 3 et 4 ans. Entre 8 et 12 ans, on passe à 5 heures. Et à, entre 13 et 18, on
par
est
jour.
À 7
par
heures par jour.
7 heures par,
oh là
là, 7 heures par 7 jour.
Ah oui, mais tous jour. Les écrans, c'est-à-dire à la fois
alors,
le téléphone
télé,
portable.
Télé, portable, ouais. console de jeu. Et 7 heures par jour pour un adolescent, c'est près de la moitié de son temps éveillé. Il est debout, la moitié du temps où il est debout, il est sur un écran. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM qui a compilé toutes ses études dans un livre au titre terrifiant qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ».
Et alors, si on ne suit pas toutes ces recommandations, quels sont les risques concrets pour l'enfant?
Alors, avant 6 ans, on commence à avoir des effets négatifs dès 10 minutes de télé par jour et ça vaut même quand l'enfant est assis dans le salon et tourne le dos à la télévision. Alors, le premier impact, il est d'abord sur le langage. Un enfant qui regarde 50 minutes d'écran par jour, c'est simple, ça fait 850 000 de mots en moins entendus sur une année.
Ah ça dépend, s'il regarde un film de Woody Allen par exemple,
bah
non seulement
ça,
il va être bilingue puis il aura plein de mots,
ça
s'il regarde La Patte Patrouille.
Ça n'arrive pas. Je crois que c'est plutôt Choupi.
Les Marseillais.
Les Marseillais à Miami par exemple. Voilà, ça,
Télétubbies, Télétubbies, ça, ils ne prononcent pas
ah
un
oui,
seul mot.
Télétubbies, il n'y a pas de mots. Oui.
Et puis il y a des effets évidemment sur l'attention, sur la concentration, parce que vous imaginez un cerveau il est en plein développement, c'est comme une pâte à modeler qui est bombardée de sons, de bruits, d'images. Et la concentration, c'est précisément ce que l'enfant est en train d'apprendre, c'est ce qui l'aide à apprendre. Et c'est cette période précisément avant 6 ans où son cerveau est en plein développement qu'il doit apprendre la concentration. Après 6 ans, donc là on passe plutôt sur les ados, donc il y a toujours ce problème de concentration. Et puis vous connaissez déjà l'impact sur le sommeil. Donc les ados, parce qu'ils passent du temps, c'est du sommeil en moins, et puis ça retarde aussi l'endormissement. Et puis chez eux, les écrans augmentent aussi les risques de dépression et d'anxiété.
Alors Eve, comment se fait-il, si c'est si grave que ce que vous nous dites, que nos enfants ont l'air d'aller très bien?
C'est vrai. Tous n'ont pas l'air de crétins, contrairement au titre du livre, mais je vous rappelle là, je parle de consommation quotidienne des écrans. C'est-à-dire tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez regarder avec vos enfants, même petits, un film de temps en temps. Aller au cinéma, évidemment, mais un dessin animé le dimanche, une fois par semaine, c'est pourquoi pas. Mais comment faire pour pas que ça se reproduise ? C'est ça qui est difficile.
Le problème, c'est qu'il y a une addiction. Hein. Moi, mon fils, il veut toujours. Si je lui montre un peu, il va en regarder encore plus.
Ben voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas commencer. Et pour tous ceux qui regardent quotidiennement les écrans depuis des années, ben en réalité, on n'a pas assez de recul pour savoir quels sont les effets. On le saura plus tard.
Mais
déjà...
tard, on les découvrira dans 10 ans.
Ce sera la surprise.
C'est ça, la cigarette.
Eh ben, t'es sacrément con, mon
grand. Je suis fier de toi.
La cigarette, il a fallu des dizaines d'années avant de prendre conscience de ça. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas commencer à cette consommation quotidienne. Et puis, ce qui doit nous alerter, c'est que certains pays prennent avec beaucoup de sérieux ces dernières découvertes scientifiques.
La Suède et le Danemark, non,
non. Alors paradoxalement, ce n'est pas les pays du Nord. Ah, à Taïwan, par exemple, vous devez payer une amende de 1 400 euros si on vous trouve avec un enfant de moins de 2 ans devant un écran.
Ça, c'est très très bien. Ça.
Et en Thaïlande, c'est sans écran, mais avec un enfant de moins de 2 ans. C'était tout pour moi. C'était le compte en spectacle aux Républiques.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Il est actuellement en spectacle avec Le Son d'Alex au Théâtre République à Paris tous les mercredis et jeudis à 20h. On lui doit le générique des émissions Silence, ça pousse ou Scène de ménage. Alex Jaffray était l'invité de Mathieu Noël mercredi sur Europe 1.
Accueillons notre invité du jour, un barbu qui jongle avec les sons et qui a déclaré, je cite, « En France, on croit souvent qu'on ne peut pas apprendre en s'amusant, je pense que c'est exactement le contraire. Non, chers auditeurs, je ne me reçois pas moi-même, mais presque. Bonjour Alex Jaffray.
Bonjour cher homonyme.
Vous êtes compositeur de métier, chroniqueur musical, par amusement, on vous retrouve notamment dans Télématin et actuellement en spectacle au théâtre Le République à Paris, du mercredi au jeudi. Le spectacle s'appelle Le Son d'Alex. C'est quoi le concept ?
Le concept, c'est en fait tous les morceaux que vous connaissez sur lesquels vous avez dansé, galoché, pleuré parfois, avec un tout petit pas de côté, on les écoute d'une façon dont vous ne les avez jamais entendus.
Quel est cet étrange objet qui vous accompagne aujourd'hui, qu'on retrouve aussi sur scène ?
C'est un sampleur, c'est-à-dire c'est une machine avec plein d'extraits dedans. Par exemple, si j'appuie là-dessus, voilà, j'ai un extrait de l'arnaqueur. Là, par exemple, Scène de ménage. Oui. Là, par exemple, c'est le début du spectacle, c'est Hôtel California à l'envers. C'est pour emmener les gens jusqu'en 77. 77 si vous êtes belge.
77 et suisse.
Exactement.
Ça marche aussi. C'est génial cette machine, c'est prodigieux ça. Alors dans votre spectacle, vous nous invitez à une leçon sur la musique. On va commencer Allegro, Manon Troppo. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les modes majeur et mineur en musique ?
Majeur et mineur, c'est assez simple. En fait, c'est Jean Seb. Vous voyez Jean Seb Bach ?
Vous êtes intime.
Voilà, Jean Seb qui, quand on voit sur la pochette de Deutsche Grammophon, vous le citiez tout à l'heure, le mec a un peu la tête de Philippe Etchebès quand il ouvre la porte d'une cuisine dégueulasse.
Tu vois, c'est dire qu'il a... On n'a pas envie de l'emmerder.
Voilà, le mec n'est pas commode, mais il était organisé. Il a donc créé le clavier bien tempéré et puis les différents modes. De la musique occidentale, majeur, mineur. Le majeur, c'est très simple. Par exemple, un do majeur, c'est extrêmement ensoleillé. Vous voyez, c'est très positif. C'est par exemple, Eva, faites-moi une vanne. Vous voyez, c'est... Ouais.
On va dire plutôt ça. Passer sur le mode mineur. Ce moment-là. Enfin, ça, c'est ce qu'on attend. Et puis ensuite, il y a la blague.
Le mode mineur, enfin voilà, le mode mineur, qu'est-ce que c'est ? Imaginez, vous avez un petit chat dans la main. Vous avez un tout petit chat comme ça, vous le tenez dans la main et vous le regardez et... Il est mort. C'est ça le mode mineur, oui. C'est ça.
On va prendre un autre exemple concret, plus complexe peut-être, sur cet enregistrement d'un chanteur qui a préféré rester anonyme.
No time for losers, cause we are.
Vous diriez qu'il est un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous, tout simplement à la ramasseau, comme on dit dans le langage classique.
Alors, mon papa avait une phrase que j'adore, c'est « Il chante juste, mais tout juste ».
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Alors les amis, puisque c'est pas tous les jours qu'on reçoit un compositeur en vrai, je vous propose pour notre quiz un vrai faux musical. Chacun son tour, c'est parti. Eva Rock, vous connaissez le titre Sea, Sex and Sun. Eh bien, il existe une version avec les couplets en anglais chantés également par Gainsbourg. Vrai ou faux ?
Il est en train de la chanter dans ma tête.
Oh, mais chantez-la pour nos auditeurs,
non,
faites partager.
Non, je vais pas vous offenser avec ça. Je dirais vrai.
Vous diriez vrai ?
Oui, j'irais vrai.
Eh bien, parfois, vous êtes inspiré.
Excuse me.
Ah !
I am a Frenchman. And I'm afraid I don't speak very well English.
Ah, c'est génial !
J'avais jamais entendu ça. Titre qu'il a écrit en 10 minutes sur un coin de table.
Ah bah oui, c'est ça le génie. Hein.
Eh oui, alors que Kadji Girac a mis 3 jours. Bref. Alex Jaffray, Johnny Hallyday a sorti un album au Pérou en 1981, entièrement chanté en espagnol, vrai ou faux ?
Là, j'ai la tête de Hallyday avec le bonnet péruvien. Ça m'empêche de me concentrer.
Ça aurait été une très belle pochette d'album.
Ouais, je pense.
Ça l'a peut-être été d'ailleurs.
Je dirais non.
Vous diriez non ?
Je pense que j'ai tort. Je peux me mettre le son moi-même ?
Il est fort. Écoutons la réponse.
Toda la música.
Mais non !
Mais non, c'est Florent Pagny.
Mais je vous interdis.
Non, c'est le bon être,
la mémoire de Johnny. C'était effectivement Yo te amo, que je t'aime, en espagnol pour nos amis péruviens. Alex, Eva, une question de rapidité en musique. Un groupe français s'est mélangé avec un groupe britannique. Donnez-moi les deux, c'est parti.
C'est Cure et Téléphone.
Plus rapide pour Alex Affaire.
Je le connais, j'adore ce mashup, il est dingue. Il est
DJ
dingue.
Zebra, visiblement. Eva Rock, vous vous souvenez de Phil Barnet?
Avoir un seul enfant de toi.
Ça suffira.
Oui, c'est pas... effectivement, c'était suffisant. Un seul enfant. Il a bien fait. Alors,
Phil.
7 ans avant, il faisait du hard rock dans un groupe appelé Les Ramors. Vrai ou faux?
Moi, je dis oui.
Vous dites oui, et j'aime bien quand vous répondez comme ça spontanément. Oui. Ça vient du cœur, et c'est faux.
Ah bon.
Mais par contre, il était animateur radio. Il a été un des premiers à passer du rap en France.
Phil Barnet. C'était ça, j'ai confondu.
Et lui-même, il partait en freestyle, la preuve.
Si tu es là ce soir, c'est pour ton DJ. Je peux te dire une chance, c'est que t'as tout compris. Il va te faire danser sous des lumières bizarres au son du fort cupide et des...
Eh ben, j'ai préféré la chanson du top 50 à avoir un seul enfant de toi. Voilà, je vous le dis.
Oh, c'est pas gentil, c'était les débuts du rap. Hein.
Mais oui, oui. Vous voulez qu'on parle d'Ayam ou pas, non?
Ah oui, non.
Oui, après.
On va en reparler d'Ayam, mais pas tout de suite. Alex Jaffray, Lara Fabian se produit le 20 décembre prochain à Dubaï dans les Émirats. Vous y serez, je le sais, en grand fan. C'était pas la première fois qu'elle chante au Coca-Cola Arena. D'ailleurs, elle fait une version de Je t'aime en arabe. Vrai ou faux?
Bah oui.
Oui, vous dites oui?
Oui, je...
Eh bien non, c'est faux.
Oh,
le concert au Coca-Cola Arena de Dubaï le 20 décembre prochain, c'est tout à fait vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est que si La Reine des Neiges 2 sort également aux Émirats, c'est qu'il doit y avoir une version de la fameuse chanson pour les Émirats.
C'est bizarre, même dans toutes les langues, elle est pourrie.
Dans toutes les langues, elle est agaçante.
Mais c'est quoi, c'est la reine du sable? Enfin, tu veux qu'est-ce qui... Tu changes quoi?
Je ne sais pas le même film.
Pardon.
Mais vu le contexte politique, j'aimerais bien connaître les paroles de cette chanson.
Oui, c'est vrai.
Alors je vous fais la traduction. Remettez. Non. Alex Jaffray, sur scène, il y a de l'humour dans votre spectacle. Vous mélangez musique et humour. Est-ce que ça doit être un petit peu compliqué en fonction des références des gens? Tout le monde n'a pas les mêmes références musicales. Ceux qui sont plutôt rock, ceux qui sont plutôt classiques. Il faut sentir la salle un petit peu avant.
Non, alors, en fait, le son d'Alex a été écrit. J'avais un fichier Excel avec tous les extraits et avec toutes les dates, et pour essayer d'avoir de couvrir un spectre le plus large possible. C'est-à-dire que je veux vraiment de Jules, en passant par Daft Punk, Bach, Samuel Barber.
Qu'est-ce que vous racontez sur Jules, par exemple?
Oh, des trucs bien, que j'ai rien contre lui, mais je trouve dommage qu'il chante. Oui, c'est pas.
Ah oui, ça doit pas être la plus longue partie. Je pense que Bach, c'est plus développé.
Ça revient 2-3 fois à Jules, et à chaque fois, il prend un peu.
Vous pouvez le découvrir au théâtre Le République à Paris, les mercredis et jeudis à 20h. Alex Jaffray passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
16h23, vous écoutez Mathieu Noël pour les meilleurs moments de la semaine. Mathieu Noël entouré d'Eva Rock, d'un invité, enfin mardi, ils étaient deux, et un journaliste dont on va découvrir tout de suite le sujet.
Et cet après-midi, sous le regard intrigué de nos invités Akhenaton et Shuriken venus nous présenter le nouvel album d'Ayam, Yasuke, je vous propose une activité complètement dingue. Se mettre aux commandes d'un rafale. Non pas Eva sur les genoux du pilote.
Ah merde.
Et non, mais c'est vous qui allez tenir le manche. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Magie du numérique, puissance de la réalité virtuelle, le temps d'un téléchargement. Nous voici dans la combinaison des Tanguy et la verdure du 21e siècle. Aux commandes d'un rafale.
Exactement, grâce à une application gratuite que vous pouvez installer très simplement sur votre PC. Dassault, le constructeur aérien, vous propose de piloter le célèbre avion de chasse. C'est un jeu, un simulateur qui vous plonge dans une réalité virtuelle à 360 degrés. Et en fait, Dassault a constaté, notamment sur les meetings aériens, qu'il y avait une curiosité passionnée, insatiable des visiteurs sur ces questions. Et donc est venue l'idée de cette application ludique et pédagogique que peuvent aussi utiliser les enseignants, par exemple, pour faire comprendre aux élèves comment vole un avion. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Stéphane Faure. Il est le directeur de la communication de Dassault Aviation.
On a eu une demande finalement du personnel enseignant et aussi sur les meetings aériens où on se déploie d'avoir un module qui permette d'expliquer aux enfants, mais pas qu'aux enfants d'ailleurs, on s'aperçoit, comment vole un avion, donc les différentes forces qui s'exercent entre la portance, la traînée, le poids, la poussée, bref, qu'est-ce qui fait qu'un avion vole. Et puis on s'est dit, une fois qu'on a expliqué ça, bon voilà, autant aller jusqu'à faire voler voler l'avion et que les gens puissent mettre en œuvre ces principes-là. Et donc, on est en caméra suggestive derrière l'avion et on le suit, en fait. Mais par contre, on le pilote et on va passer comme ça à travers des cibles, faire un ravitaillement. On peut faire des boucles, on a un décor. Donc, finalement, on estime, nous, même si on est un industriel, qu'on a un rôle à jouer en termes pédagogiques pour entretenir, développer la passion de l'aéronautique, notamment chez les plus jeunes. Et puis, qui sait, plus tard, en faire aussi des ingénieurs qui viendront peut-être chez nous.
Évidemment, on peut peut-être susciter des vocations. Aboard the Rafale, c'est le nom de cette application. Bah, attendez, des années d'anglais. Hein. Moi, je sais qu'il est sorti du jardin, Brian. Hein. C'est donc le nom de cette application gratuite que vous pouvez télécharger.
Dans la cuisine.
Mais c'est pour ça, après, il est allé dans le jardin. Vous suivez rien, en fait. Vous êtes arrêté au premier cours, mais il s'est passé des trucs. Hein. Donc, je la refais. Aboard the Rafale, c'est le nom de cette application gratuite que vous pouvez télécharger sur le site de Dassault Aviation. J'imagine déjà ma fille en train de se moquer de moi sur mon accent anglais, mais enfin, c'est pas grave. Vous allez vite vous apercevoir à travers cette application, là je suis sérieux, que c'est pas si simple de réaliser un ravitaillement en vol.
Ah bah oui.
Ah voilà, de tenir le manche.
Ah, ça, elle va vous le dira.
Et voilà, et malgré la désorientation spatiale classe que l'on peut connaître dans les airs, comme le dit Eva, dans les airs, ou en retour de certaines soirées d'ailleurs, la désorientation spatiale, ça peut arriver aussi.
Mais non.
Bah
mais
si,
non.
Oh bah, dis donc.
Vous avez pas une appli pour aider Eva à rentrer chez elle en revenant de soirée, justement, pour retrouver une forme d'orientation spatiale?
Ça s'appelle une copine ou un copain.
Voilà,
mais je pense qu'elle a quand même des amis. Enfin, vous me disiez l'autre jour que c'était difficile.
Oui. Ah, ça,
mais
des quand amis, même, ça ne manque pas. C'est un ami qui manque, mais des amis, elle en a plein.
Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. En attendant, allez piloter un Rafale. Oh, oui. Ça va vous passionner et vous détendre.
Très bien. On je ira, vais y aller, moi. On ira tout de suite.
Oh oui, elle y va, elle y court. Elle y va. Merci. Aboard the Rafale with Stephen Place. Merci beaucoup, Stéphane.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
16h29, vous écoutez Mathieu Noël, autour duquel se sont réunis Eva Rock, son acolyte, un invité, ici le médecin Patrick Peloux. Il était venu lundi sur Europe 1 nous parler de son livre « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux » aux éditions Robert Laffont. Sans oublier un journaliste compétiteur, car l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition. Et maintenant, c'est Axel de Tarlé qui se rapproche du micro.
Le marquis de Tarlé, expert égo d'Europe 1 qui fut dans sa jeunesse, croyez-le ou non Patrick, le lead singer d'un groupe de rock alternatif très alternatif. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais quand il s'entend chanter, lui aussi a du mal.
C'est épouvantable de s'entendre. On croit qu'on chante bien, mais...
T'étais pas chanteur dans ton groupe de rock.
Je te rappelle, voilà, j'étais chanteur dans mon groupe de rock.
T'étais chanteur.
En fait, j'ai compris pourquoi rapidement ils voulaient faire des musiques instrumentales.
Heureusement, vous aviez prévu un plan B. Le journalisme économique, bien joué. Ce qui va vous permettre de nous parler aujourd'hui de la SNCF et ce qui nous intéresse le plus, l'avenir de la SNCF, mon cher Axel.
Exactement, parce qu'en fait, donc il y a une grève jeudi. On pense beaucoup que c'est à cause de la réforme des retraites, mais il y a quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver à la SNCF et qui a lieu en ce moment, puisqu'on est en décembre 2019. C'est l'ouverture à la concurrence qui commence techniquement demain. Ça va se faire en deux temps. À partir de demain, ce sont les TER qui sont ouverts à la concurrence. Et dans un an, en décembre 2020, ce seront les TGV. C'est-à-dire que, de même que quand on prend l'avion, on peut prendre la compagnie de son choix, dans un an, pour faire Paris-Lyon, on pourra prendre le TGV de son choix. C'est-à-dire, soit le TGV de la SNCF...
Mais c'est vraiment un séisme, ça, dans le monde du ferroviaire.
Ah ben, c'est un séisme, oui, voilà. Mais c'est déjà le cas dans les autres pays européens. La SNCF, d'ailleurs, ne se prive pas d'aller faire rouler des TGV en Espagne. Et donc, là, ça nous arrive. Alors, ça commence aujourd'hui pour les TER. Alors, pour les TER, on va procéder par appel d'offres. Et donc, il y a déjà plusieurs régions, dont la région Nord, la région Grand Est, la région Sud aussi, où ils sont très mécontents des retards des trains, des TER, notamment entre Marseille et Nice, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient lancer les appels d'offres pour remplacer la SNCF. Et donc, on va avoir des TER. Alors, il y a déjà la RATP, figurez-vous, qui se propose de faire rouler des trains régionaux privés. Elle s'est associée avec Eurotunnel pour faire ça.
La RATP à Marseille, ça serait drôle.
Voilà, la RATP à Marseille.
Dans les Alpes.
Ouais. Voilà. Mais du coup, en vue de l'arrivée de cette concurrence, qu'a-t-on fait à la SNCF? Ça a été la loi de l'an dernier. On a mis fin au statut des cheminots, qui s'arrête, le statut des cheminots, le 1er janvier. C'est pour ça que, si vous voulez, ce télescope en ce moment, l'arrivée de la concurrence, la fin du statut des cheminots, alors que d'ailleurs, ça veut dire quoi, la fin du statut des cheminots? Ça veut dire la polyvalence, c'est-à-dire que celui qui vend des billets, faut aussi qu'il passe un coup de balai, faut aussi qu'il fasse le contrôle. Ça veut dire aussi la fin de la retraite à la SNCF. Les nouveaux embauchés à partir de janvier 2020.
Il faut rappeler que ça ne concerne que les nouveaux embauchés.
Voilà, ben la clause du grand-père, elle est, la fameuse clause du grand-père, elle est déjà effective à la SNCF. Tout ça, vous ajoutez en plus la grande grève de l'an dernier qui était contre cette réforme des statuts, qui a été, on l'a oublié, mais ça a été une grève longue, c'est un système de grève perlée là, en travail de jour.
On l'a pas oublié, hein, les usagers ne l'ont pas oublié, Axel.
Ouais, bon, voilà.
Tout le monde ne vient pas en carrosse à Europe 1, Axel.
Non, moi, je viens en RER, donc c'est le RER de la SNCF. Donc,
avec des choses. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Oui, mais on s'en fout, Axel.
Convoiturage,
Axel de Tarbes.
S'il y a une calèche qui peut passer.
Voilà, et tout ça, bah, entre la réforme des retraites, la fin du statut, l'arrivée de la concurrence, ça crée un malaise qui fait que ça nous annonce peut-être une grève longue et dure à la SNCF. Et c'est quand même un problème pour Emmanuel Macron, parce que s'il finit par reculer, bah, c'est toute son ADN réformatrice... qui terminera dans les poubelles de... Je ne sais pas comment terminer ma chronique, mais...
Eh bien, vous savez quoi, ça, je vais vous regarder, puis je vais vous laisser la terminer comme ça, vous en lisez, ça me fera un excellent son pour demain.
Voilà, tout ça pour dire que la grève à la SNCF pourrait être longue.
Belle fin.
Fin
de la chute.
Mais oui.
On remercie Axel de Tarbes. Équité oblige. Anis Mbida, je vais vous demander de nous dire ce que vous avez pensé de la chronique de votre rival. Une analyse adulte, constructive et raisonnée, si possible.
C'est nul, ça pue.
Merci. Et attention, c'est ma question en route vers le Pulitzer. Patrick Peloux.
Oh non.
Est-ce que vous prenez beaucoup le train?
Oui.
À question nulle, réponse. Bref, je vais plutôt vous poser une question relative à Axel de Tarlet. Car comme lui, Patrick Peloux, vous avez aussi d'abord pensé à faire carrière dans la musique. Vous vous foutiez de sa gueule tout à l'heure, mais vous aussi,
oh là,
vous avez été musicien.
Qu'est-ce que t'as trouvé, toi?
Attends, j'ai pas trouvé de son. Non, ne vous inquiétez pas, Patrick, on est en famille. Il y a pas de son.
J'ai tout détruit.
Oui, pas, vous avez détruit les bandes. Mais alors, comme ça, longtemps vous avez hésité entre médecine et musicien.
Mais ouais, c'était les années 80. Mais si tu veux, c'est les choses qui font que tu croises des gens au début de ta vie. Et puis on jouait dans le garage, on faisait de la musique, on faisait du rock'n'roll. Et on faisait du rock'n'roll avec un jeune qui débutait et qui s'appelait Benabar et Associés.
Vous avez joué avec Benabar?
On s'était croisés,
Mais
on était plein de boutons, c'était formidable. et puis il y avait aussi le groupe Les Têtes Raides qui était pas loin. Ça a été des belles rencontres, c'est toujours tous des amis.
Mais vous jouiez de quel instrument?
Je massacrais les accordéons.
Les accordéons? C'était du rock'n'roll à accordéon.
Et les accordéons se sont réunis, on fait une plainte collective et j'ai été interdit d'accordéon.
Voilà. Bon, alors, ma prochaine mission, c'est de retrouver ces bandes. Ça peut être intéressant pour la prochaine émission. En attendant, il publie Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, le récit des derniers jours des grands hommes. Patrick Peloux est avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Des infos, des découvertes et de la bonne humeur, c'est tout ça, l'équipe est sauvage. Alors, jeudi, le trompettiste Ibrahim Malouf était l'invité de Mathieu Noël, invité à l'occasion d'un nouvel album baptisé Sens.
Il est l'idole d'Eva. C'est même pour lui plaire qu'elle avait décidé l'année dernière de se mettre à la trompette.
Avec les funestes
conséquences qu'on sait pour la musique au sens large et pour le jazz en particulier, le génie français de la trompette Ibrahim Malouf est notre invité cet après-midi. Ah, c'est quand même un peu mieux. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Je suis désolé Ibrahim, je suis pas responsable de ça.
On dit toujours qu'il faut 20 ans pour faire un bon violoniste. Combien de temps il faut pour faire un bon trompettiste, ou en tout cas un trompettiste acceptable? Est-ce qu'il faut qu'elle s'accroche ou c'est déjà trop tard?
Déjà, je savais pas qu'il fallait 20 ans pour faire un bon violoniste.
C'est ce qu'on dit, vous savez, on dit souvent qu'il faut... Non, le proverbe exact, je crois, est il faut 10 ans pour faire un bon pianiste et 20 ans pour faire un médiocre violoniste, enfin un violoniste moyen quoi.
Ah, autrement dit, le violon c'est un instrument
Exactement,
impossible à maîtriser
quoi. Dur.
C'est vrai que c'est un instrument qui est très difficile, le violon. Mais chaque instrument a ses difficultés. La trompette en fait, du coup Eva peut-être qu'elle doit savoir, mais en fait ce qui est très difficile c'est déjà d'émettre un son.
Oui.
Déjà, donc il y a parfois des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui peuvent mettre des semaines avant de vraiment produire un vrai son.
Par exemple, pour les parents qui nous écoutent, on peut pas commencer la trompette à l'âge de 7-8 ans, par exemple, c'est trop tôt.
Si on peut
émettre un son même à cet âge-là.
C'est même d'ailleurs plutôt mieux.
Ah d'accord, de commencer très jeune.
Ouais, parce que souvent les adultes ont une idée fausse de la trompette, comme quoi il faudrait absolument jouer fort, souffler fort et que c'est difficile. Et du coup, ils mettent beaucoup trop d'énergie. Et du coup, les lèvres se bloquent et ne vibrent pas comme il faut et ne sont pas assez souples. Et du coup, ça marche pas. Alors que les jeunes, ils se posent pas trop la question, juste ils soufflent naturellement et ça peut être beaucoup plus facile finalement.
Et si pour vous, chers auditeurs, le summum de la trompette jazz, c'est le solo d'Alain Chabat dans La Cité de la Peur, je vous propose de vous plonger rapidement dans la discographie de notre invité. Una Rosa Bianca, je traduirai par Une Rose Blanche. Premier titre assez planant de ce nouvel album, Sens, 11e album studio déjà. Vous avez signé 10 bandes originales de films, je compte même pas les courts-métrages. Vous êtes un hyperactif de la musique, ça correspond à votre nature profonde ou c'est juste que le succès étant là, il faut enchaîner quoi, les gens vous réclament.
Je crois que je me suis jamais trop posé la question. J'adore composer, j'adore produire et j'ai eu la chance de n'avoir eu que des portes fermées au moment où je voulais sortir mon premier album. Tout le monde m'a dit non et donc j'ai monté mon propre label. Et du coup, ben, je suis indépendant, donc je peux sortir plein d'albums et des projets et personne ne me dit « Ah non, c'est pas le moment » ou «
Vous faites ce que vous voulez, vous êtes
libre. » Je sais pas, je fais ce que je veux.
Voilà, alors on connaît votre goût pour la musique orientale, vous êtes originaire du Liban. Ouais. Là, il y a des couleurs latino dans cet album. Vous avez fait un voyage à Cuba, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, j'ai une partie de ma famille déjà qui est sud-américaine et je vis avec l'Amérique du Sud depuis plus de 20 ans, mais j'en parle pas trop parce que comme je suis classé trompettiste de jazz d'origine orientale, alors du coup si tu dis que
vous n'aimez
un peu...
pas les étiquettes, hein, vous avez envie de faire tout exploser, mais c'est ce que vous faites d'ailleurs.
C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve que ça réduit, mais tout le monde en fait, ça réduit un peu tout le monde.
Nouvel album Sens qui est disponible, il fait beaucoup de choses, mais il serait bon qu'il accepte aussi d'être le prof de trompette des baroques.
Non.
Ibrahim Malouf, passez l'après-midi avec nous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'émission si feel good que même au cœur d'un bouchon de 14 km, les autres automobilistes vous entendront crier
«
Celle qui en revanche risque de ne pas crier « Yeeha » à l'issue de cette séquence, mais plutôt
« Ah merde !»
C'est Eva Rock qui va maintenant affronter notre invité Ibrahim Malouf sur son terrain, puisque oui, le quiz du jour est pernicieusement consacré à l'univers de la trompette. Avis aux âmes sensibles, je ne vous cacherai pas qu'il se peut que ça soit une boucherie façon Game of Thrones. Attention, quiz trompette.
Vous avez trouvé Game of Thrones en trompette hein.
Je trouve toujours tout ce que je veux sur internet car il se trouve toujours des gens assez créatifs pour reprendre n'importe quoi à la trompette.
Vous avez tapé dans la barre de recherche Game of Thrones trompette.
Cover, trumpet, Game of Thrones. Oui, bien sûr, et on trouve des choses formidables.
Vous êtes un grand malade.
Oui, c'est mon métier.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que le quiz trompette, on est quand même perdu la moitié des auditeurs. Là. C'est quand même un peu le truc qui m'inquiète.
Ah non, vous inquiétez pas. Ils sont là pour le quiz trompette de rapidité. Hein, c'est une forme de blind test. Le premier qui a la bonne réponse la donne et marque un point. C'est parti. Pour ce premier extrait, je ne vous demande pas le chanteur, mais le titre de la chanson. C'est parti.
Ah oui, Michael Jackson, Beat It.
Ibrahim Malouf, quelle classe. Alors Ibrahim Malouf offre ses points visiblement.
J'avais trouvé Michael Jackson, mais j'arrivais pas à me souvenir.
Oui, même avec les grands signes que vous faisiez, Ibrahim, vous avez mis du mal à trouver Beat It de Michael Jackson, effectivement. Alors maintenant, je veux le chanteur et le titre.
Ça, je sais pas.
Si, vous connaissez.
Alors, ça veut dire que.
C'est George Michael.
Oui, et le titre. Là, on perd les auditeurs. Dépêchez-vous.
Mais oui,
là,
ouais,
mais non, parce qu'il n'y a même pas une trompette.
Mais hein, non,
c'est un synthé. Il y a une touche.
Non, mais là, ça, je connais pas, moi.
Comment elle s'appelle la chanson?
Je connais la chanson comme ça, mais je n'ai jamais vraiment écouté.
Si, vous la connaissez très bien.
George Michael, Careless Whisper.
Allez, je ne pourrais pas retrouver le titre.
Vous n'avez pas la vraie?
Voilà.
On dirait un film érotique des années 60, comme vous dites.
Ah, on dirait ça, ouais. Mais c'est quand même George derrière.
Oui,
c'est premier titre en solo de George, et donc je n'aurais pas accepté Wham comme réponse. Donc c'est bien, George Michael. Eva, on vous donne un demi-point. On change d'ambiance. Qui est la chanteuse et comment s'appelle le titre?
Voyage, laisse.
Plus que la trompette, quand on est dans les chansons des années 80, Eva marque des points.
Où on peut trouver ce genre de version?
Mais vous savez, Ibrahim, tout est possible sur un. Si vous sortez de votre studio et de votre entourage de musiciens prestigieux et de qualité, sur Internet, il y a plein de losers qui font des vidéos de trompettes pourries. Là, c'est tout un univers que je vous invite à découvrir. Wow. C'était effectivement Voyage de Desireless, version trompette, une nouvelle chanson à trouver. Le titre.
Ah oui, c'est pas David Guetta, ça?
Non, c'est pas David Guetta.
C'est Daft Punk.
Oui, mais quel est le titre?
Can't Get Enough. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est pas loin.
Lucky.
Get Lucky. Bonne réponse, Get Lucky. Les Daft Punk, mais aussi Pharrell Williams. Bon effet Turing, Nile Rodgers.
Il faut pas.
Enfin, attention, cette chanson va vous départager. Qui est le chanteur?
Ah oui. C'est Ed Sheeran.
C'est Ed Sheeran. Bonne réponse.
Je suis son
Je
suis fait avoir.
Effectivement. Est-ce qu'il y a une des trompettes qu'on a entendu qui était d'un niveau correct ou est-ce qu'ils étaient vraiment tous nuls à la trompette, ce qu'on a entendu ?
Ils étaient pas nuls parce qu'on reconnaît la mélodie et à la trompette c'est déjà énorme.
Ah oui, c'est déjà beau. Voilà. Ah, vous êtes sympa, Ibrahim Malouf.
Après, c'est pas non plus des très très grands trompettes, mais on va pas passer.
C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette, comme c'est étonnant.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
16h50, on reste avec Mathieu Noël. L'équipée sauvage se poursuit à présent avec le sujet de Fred Goati. L'heure est toujours à la compétition. C'était en présence de deux membres du groupe IAM, Akhenaton, Shuriken. Mardi, Fred Goati a donc choisi de parler musique, forcément, à l'occasion de la sortie d'un livre dédié à Ella, la chanteuse jazz.
Fred, aujourd'hui, pour remporter la margoulette, comme disent les jeunes, vous misez sur Ella Fitzgerald.
Je vous disais tout à l'heure deux ou trois choses. Alors là, la première, c'est qu'il faut aimer Ella Fitzgerald à la folie. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. On ne peut que l'aimer à la folie, s'il vous plaît. Alors, elle a incarné pendant 60 ans, vous rendez compte, 60 ans de carrière, bah, une sorte d'idéal de la chanteuse de jazz. Belle, radieuse, magnifique. Mais derrière ce sourire radieux, il y avait quand même, de temps en temps, quand elle chantait dans un mode plus intimiste, bah, on devinait les fêlures de la vie. Parce qu'elle a eu une enfance difficile. Elle a été, par exemple, internée dans une école de correction très raciste. Un jour, quand elle avait 11 ans, il y a un type qui l'a traitée de négresse. Elle l'a poussée par terre. Elle est devenue l'héroïne du quartier. Voilà. Et un jour, elle s'est inscrite à un concours de jeunes talents. Alors, il y avait de la danse, il y avait de la voix. Elle était fascinée par la danse. Alors, elle voulait être danseuse, en fait. Et elle était tellement fascinée par les danseuses qu'il y avait ce soir-là, qui étaient des danseuses acrobatiques, mais elle a perdu tous ses moyens. Elle a failli s'évanouir. On lui a quand même poussée sur scène. On lui a dit « Fais quelque chose, chante quelque chose !» Elle a chanté une chanson qui s'appelait « Judy ». Elle a obtenu un triomphe. Et voilà, sa vie a commencé. Et elle est vraiment née, en fait, en novembre 1934, parce qu'elle a donc fait ce concours. Et puis ensuite, 4 ans après, elle est devenue la chanteuse de l'orchestre de Chick Webb, qui était un très très grand batteur de jazz à l'époque. Et elle a obtenu son premier succès, « A Tisket, a Tasket ». A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. Alors avec cette chanson, elle a battu tous les records de vente. Je me mélange les époques.
Combien de vues sur YouTube ?
De vente de 78 tours. Et oui, les disques tournaient à 78 tours à l'époque. Alors elle est devenue rapidement la première dame du swing, the first lady of swing. Mais attention, elle n'a pas voulu se cantonner à ça, puisque dans les années 40, il y a un nouveau style de jazz qui est né, le bebop. Elle a tourné avec Dizzy Gillespie, grand trompettiste bebop, et elle a appris à scatter. Pourquoi ? Bah pour s'élever au niveau des grands solistes. Alors, si j'avais une heure devant moi, j'essaierais de vous expliquer ce que c'est que le scat. Mais Ella Fitzgerald, présentée par, messieurs, ceci est une spéciale dédicace, présentée par Big Daddy Kane, un des plus grands rappeurs,
ah, oui.
Eh bien, Ella va vous expliquer en quelques douap-douap ce que c'est que le scat. Allow me to tell a story about Ella Fitzgerald, whose sound can never be sterile. A woman with flexibility of range, make an octave change, go ahead and do your thing. Beep, bop, beep. Mais là, attention.
C'est incroyable, c'est incroyable. On a l'impression que c'est facile, alors que c'est peut-être le truc le plus difficile au monde à faire en musique, quoi.
Moi, j'aimerais juste dire ce que je pense. J'adore le scat, j'adore Ella Fitzgerald, et j'adore quand des rappeurs reprennent des bouts de. J'avais une chanson avec Ray Charles notamment, et j'adore ça. J'aimerais bien qu'Ayam fasse ça un jour. Rien pour moi.
On le fait avec du. Ça s'appelle du sample, mais on en discutait hors antenne, et le sample, c'est devenu très compliqué de reprendre. Bah, parce que.
Les questions de droit.
Et,
on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Non. Tu peux fortement t'inspirer.
Si on allait budget de John Williams,
on peut pas sampler.
Ouais, John, si tu nous écoutes. Fred. On en parlera bientôt d'ailleurs de ça. C'est promis, je vous le promets. Ah, alors, donc, elle est devenue une grande scatteuse, une virtuose, mais attention, elle savait aussi qu'il fallait enrichir son répertoire de belles chansons. Alors elle s'est mise à feuilleter les pages des grands livres des chansons américaines, George Gershwin ou par exemple Cole Porter. Et qu'est-ce qu'il a écrit Cole Porter ? Une chanson qui s'appelle « My Heart Belongs to Daddy ». Elle l'a repris ça plusieurs fois. Qui a pris
Marilyn Monroe.
Ah, bah voilà. Ah, oui. Merci, Ella. Eva, pardon. Alors, un jour d'avril 55, justement, Marilyn, elle apprend que le patron du Mocambo, un des plus grands cabarets de Los Angeles, ne veut pas programmer Ella Fitzgerald. Pourquoi ? Parce que c'est une artiste noire. Alors, elle appelle ce patron, elle lui dit « Moi, je viendrai, je veux que vous la programmiez, et je viendrai m'asseoir au premier rang. Comme ça, c'est donnant-donnant. » Ella Fitzgerald est programmée. Pour la première fois, une artiste noire est programmée dans ce club. Elle fait un triomphe. Marilyn l'applaudit, Frank Sinatra est là. Et toute sa vie, en fait, Ella Fitzgerald va garder une photo de Marilyn en souvenir de ce geste qu'elle avait fait pour elle. Alors maintenant, avance rapide. je voudrais qu'on vous fasse écouter un morceau qui a été inspiré par un monsieur qui s'appelait Frankie Gay, qui était le frère de Marvin Gay. Il était revenu de la guerre du Vietnam et il avait raconté les horreurs de cette guerre à son frère et ça avait donné... Talk to me, sister, so you can see. Voilà, tout le monde connaît ça, Marvin Gaye, What's Going On, 1971. À votre avis, est-ce qu'Ella Fitzgerald, elle avait ce petit supplément d'âme nécessaire pour aussi s'approprier ça, comme elle avait fait avec une comptine enfantine comme Tisquetos Casquette, ou même une chanson des Beatles?
Facile pour
poser la question, mais évidemment, c'est d'y répondre. Alors écoutez bien l'intro, personnellement je trouve qu'elle rappe presque.
Oh, je connaissais pas cette version.
Ah, c'est génial.
Magnifique. Et où est-ce qu'on la trouve?
Ah bah on la trouve dans un disque de 1972 avec le JATP, l'orchestre de Count Basie.
Il faut vous écrire une lettre, il faut vous écrire un mail, vous nous renvoyez peut-être
bien
le
sûr.
Fichier.
Souple et discret.
Ça ressemble à lorsque James Brown faisait du, du country preaching.
C'est la même.
Voilà, ça ressemble à ça. C'est beau.
Merci beaucoup Fred Goetti. Jean-Philippe, un mot pour saluer la mémoire d'Ella Fitzgerald?
J'adore les Beach Boys.
Merci. Shuriken Akhenaton, vous êtes avec nous cet après-midi pour la sortie de Yasuke. Même si tu perds ton sang-froid, MC, tu perds ton sang-froid, un des titres de cet album, un des 16 titres de Yasuke. Vous dites quoi sur MC, tu perds ton sang-froid? Vous dites, les gars, accrochez-vous, on est toujours là?
Non, on dit surtout, il faut garder le cap, même quand c'est compliqué, pas modifier sa musique pour courir derrière son audience. C'est ce qui a assuré, je pense, la longévité d'Ayam. Et il faut pas perdre son sang-froid, surtout dans les années où c'est compliqué, parce que ça va arriver. Sur une carrière longue, au bout d'un moment, on a des moments très fastes et des moments où c'est plus compliqué. Et c'est dans ces moments-là où il faut justement garder son sang-froid et avoir confiance en la musique qu'on fait.
Jean-Philippe Ballas,
j'ai une question, on parlait des voix de scat. Est-ce que votre flow, à vous, il a évolué en plus de 30 ans?
Il change à chaque morceau, on va dire. Parce qu'en fait, on est des héritiers de la soul et du jazz. Et on adapte les flows en fonction des musiques. C'est pour ça qu'on n'écrit jamais de texte avant la musique.
Ah, c'est toujours dans cet ordre-là, la musique, ouais. Le texte.
Toujours, parce que la musique, elle nous impose des flows, par exemple, dans Tillier, on suit l'arpège de synthé, et la découpe est exactement celle du synthé, donc on s'adapte vraiment à l'instru qu'on a.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël, se poursuit bien sûr juste après les infos 17h avec Jérôme Lacroix qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme de 21 ans qui pratique depuis des années la gymnastique rythmique, discipline féminine. Il a atteint très haut niveau, mais en France, il n'existe pas de compétition d'élite de gymnastique rythmique réservée aux garçons. Allez, on va découvrir tout ça et en parler juste après les infos. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
Et on va rester avec Mathieu Noël pour les moments essentiels de la semaine passée. Beaucoup de bonne humeur, plein d'infos et des découvertes. On va retrouver évidemment les invités de la semaine, le comte de Bouderbala. Nous aurons Ibrahim Malouf, Alex Jaffré, Akhenaton et Shuriken du groupe IAM ou encore Patrick Peloux. Et durant cette heure à venir, eh bien, on va vous parler notamment de la COP25 et des tipping points. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, restez avec nous. On vous révélera les techniques des sites e-commerce pour vous faire dépenser plus et éviter les pièges. Et puis au menu également un conte de Noël. Pour l'instant, on va commencer avec le sport et avec notre expert Jérôme Lacroix.
Si l'humour et la bonne humeur sont l'ADN de cette émission hybride, je tiens à rappeler que nous sommes tout autour de cette table des journalistes professionnels et j'ai envie de dire surtout moi. Ainsi, quand il m'arrive de commettre à l'antenne une imprécision, voire dans des cas extrêmement rares un contresens, soyez sûr que je mets tout en œuvre pour corriger au plus vite mon erreur, car il en va de ma réputation, comme hier. Comment sortir du cauchemar des violences conjugales? Dans l'Ohio, un jeune ado a une idée géniale.
C'est dans l'Oregon.
Pourquoi j'ai vu l'Ohio, moi?
Non, mais. Ouais, mais.
Qui m'a mis l'Ohio?
Ils sont trompés.
C'est dans l'Oregon, c'est pas tout à fait le même endroit. Bon, on s'en fout, de toute façon, les gens savent que je dis des conneries. Oui! Enfin! Heureusement, il y a aussi des vrais journalistes précis, pointus, irréprochables. Voici Jérôme Lacroix. Jérôme, vous êtes notre spécialiste sport. Et aujourd'hui, ce n'est pas de basket dont il sera question.
Non, écoutez, ça, vous entendez les hurrahs d'un public à Chambéry, on est en janvier dernier, au championnat de France,
de GR.
On avait rarement entendu des exclamations telles à Chambéry. Hein. Ouais. C'est depuis longtemps.
Championnat de France de GR, gymnastique rythmique. Là, c'était l'épreuve du ruban. C'est l'un des quatre agrès de la discipline. Vous savez, la foule se passionne pour la personne en lice sur le praticable. La grâce, la souplesse dans son juste au corps mauve et fuchsia au reflet d'argent.
Oula, on sent que ça vous a émoustillé tout ça.
C'est l'attraction ce jour-là parce que la personne qui se produit, bah, c'est un mec, c'est un jeune homme. Il a 21 ans, il s'appelle Peterson Seus, c'est un Français et il pratique la gymnastique rythmique. Alors on ne parle pas, pour être sûr de savoir de bien ce dont on parle, on ne parle pas de gymnastique avec donc les barres parallèles, le cheval d'arçon, les anneaux. On parle de gymnastique rythmique, donc beaucoup plus artistique. Mmh. Les agrès, c'est le ruban, le ballon, le cerceau, voilà.
Les massues.
Les massues, absolument.
Ah, vous avez pratiqué un petit peu, vous,
et
la GRS,
c'est
vrai.
Au stade Orantin.
Que de souvenirs, toute une époque. Hein.
Je suis championne de demi-fond, je comprends pas.
Elle a tout fait.
Peterson, c'est eux, s'il concourt à haut niveau, hein, et comme tous les sportifs qui cravachent, bah, il rêve un jour de devenir champion de France, champion du monde, champion olympique. Mais ça, ça lui est impossible pour l'heure. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un garçon, justement. En France, il n'existe pas de compétition d'élite de gymnastique rythmique réservée aux garçons, parce que la Fédération française de gym ne reconnaît pas la pratique par les hommes.
Mais pourquoi ? S'il y a des hommes qui sont bons ?
C'est une discipline de filles. C'est ce que répond le président de la Fédération française, récemment interrogé par le journal de l'Équipe. Il ajoute, on n'est pas contre la pratique masculine, mais...
En catimini, hein.
Mais chez vous, ils ne sont pas assez nombreux pour fournir toutes les catégories dans une grande compétition. Alors c'est vrai, il faut le dire, les licenciés hommes en France, gymnastique rythmique, 400 contre 33 600 filles, donc sur 34 000 licenciés, c'est à peine plus de 1% de messieurs.
400,
mais c'est à peine un peu plus de 1% des messieurs à l'échelle de la fédération des licenciés. Quoi. Alors les compétitions du top niveau, elles ne leur sont pas interdites. Ils peuvent concourir, mais avec les filles en même temps.
Et alors s'ils peuvent participer, rien ne les empêche de gagner. Vous disiez que c'était impossible pour les garçons de gagner.
Bah, c'est la réalité des faits. Parce que sans reconnaissance de la fédération française, impossible pour les garçons, par exemple, d'intégrer les pôles fédéraux, ces super centres de formation. Et du coup, une fois en compétition, l'écart avec les filles, il est impossible à combler. Ces filles, elles sont dans les centres de formation, donc elles sont surentraînées.
Ils ne peuvent pas devenir aussi bons.
Alors voilà, participants, mais pas gagnants, ça, c'est plus possible pour Peterson Seus. Et il mène le combat que les garçons soient reconnus en gym rythmique. Et c'est le cas, par exemple, en Espagne. Depuis 10 ans déjà, d'ailleurs, Peterson y franchit parfois les Pyrénées pour se confronter au plus haut niveau en Espagne.
Malheureusement, les compétitions dont j'ai le niveau me sont fermées en France à cause de mon sexe, mais me sont ouvertes ailleurs, comme par exemple en Espagne, où mon inscription a été acceptée. Le championnat d'Espagne est l'une des seules compétitions à proposer une catégorie masculine et à être en même temps suivie par le circuit international. Et donc, pour y participer, j'aurais besoin de votre aide pour financer mon déplacement et mon dossier de participation.
Il est contraint de faire appel aux dons dans des vidéos YouTube pour vivre de sa passion. Alors, ce combat, il le mène au nom de l'égalité femmes-hommes. Mais c'est vrai que d'habitude, on ne l'entend pas dans ce sens-là. Et il a sonné du monde. Il a écrit à la ministre des Sports, à la ministre de l'égalité femmes-hommes, bien sûr, et même à la présidence de la République. Alors aujourd'hui, il en a un peu marre. Il songe à porter son combat devant la justice administrative en plaidant probablement une forme de discrimination appuyée par un prestigieux cabinet d'avocats britannique. Peterson Seus, il a aussi écrit au comité international olympique parce que lui rêve d'être champion olympique, notamment à Paris en 2024 par exemple. Et les faits sont là. La gymnastique rythmique est le seul sport olympique réservé aux femmes seulement avec... Oui, je vous ai mis un petit coup de Phil Collins, c'est la musique du final du Grand Bain, parce que l'autre sport réservé aux femmes au JO, eh ben, c'est la natation synchronisée.
C'est vrai que ça paraît injuste, mais c'est vrai que c'est une question de nombre. S'il y a peu de gens qui font la natation, peu d'hommes qui font la natation synchronisée.
Oui, non, c'est, Eva, c'est toujours le même problème.
C'est-à-dire pardon, j'ai dit une connerie, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. Je dis pas que c'est une connerie, mais tant que vous incitez pas les gens à pratiquer ce sport, ben forcément ils viennent pas, et donc forcément on continue à dire qu'ils sont pas assez nombreux.
D'accord, d'accord, madame.
Ça m'énerve.
Pardon. Excusez-moi, la prochaine fois je me tairai.
J'ai pas raison, Samy ?
Oui.
Bah oui, forcément.
Ah bon, ça, ne dites pas l'inverse, Samy. Parce qu'il faut qu'elle ait raison, sinon c'est elle qui tient, c'est elle qui porte le slip. Celle qui porte le slip, c'est comme ça qu'on dit, pas du tout. Je sais plus comment on dit.
Si,
c'est comme ça qu'on dit.
C'est pas la culotte, quoi.
C'est elle qui porte la culotte plutôt. Ouais. Le slip, normalement, c'est moi, ça veut dire autre chose.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et nous sommes avec Mathieu Noël comme tous les jours entre 16h et 18h sur Europe 1. À ses côtés, il y a Eva Rock, un journaliste compétiteur qui va tenter de captiver l'invité. En l'occurrence, le médecin écrivain Patrick Peloux, c'était lundi. Il découvrait donc le sujet de Nicolas Carreau, le monsieur livre d'Europe 1.
Cet après-midi, on évoque les derniers jours des grands de ce monde, souvent dramatiques, parfois cocasses. Patrick Pelot en a fait un livre, « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». On y apprend que trop aimer peut tuer, mais trop manger aussi, comme Louis XVIII. Nous faire attention.
Ah oui, mais on pourrait pas faire les repas. C'est pour ça que ça m'a amusé de marquer le menu qu'ils avaient.
Parce c'est que monstrueux.
On pourrait pas. Enfin, mais en fait, c'était une autre conception. C'est-à-dire, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Hein. Il a existé un monde où il n'y avait pas Internet et smartphones, il faut le dire aux plus jeunes. Et donc, en fait, ils mangeaient. Et ils mangeaient tout, en fait. Tu vois, ils mangeaient du gras doule, ils faisaient des espèces de pâtés et tout. Et ils passaient, ils commençaient à manger assez tôt et puis jusqu'à assez tard. Voilà, ils passaient la journée, une bonne journée de repas. Et en fait, Louis XVIII, oui, c'est toutes les conséquences de la suralimentation.
Patrick, on continue de feuilleter ce livre, mais la compétition continue. Voici venir Nicolas Carreau, l'expert littérature d'Europe 1, expert en retournement de situation, puisque la semaine dernière, après un démarrage catastrophique avec un jeu de mots d'une indigence qui avait choqué notre invité Philippe Besson...
Bon, c'est pas mal, attends.
C'est lamentable.
Il avait réussi ensuite, on ne sait plus comment, à triompher. Nicolas, aujourd'hui, vous nous recommandez non pas un conte de Noël, mais le conte de Noël, celui de Charles Dickens.
Mais le classique des classiques, le conte de Charles Dickens, publié en 1843 et qu'on relit chaque année, c'est l'histoire de Noël la plus célèbre au monde, après le Nouveau Testament quand même. Ça s'appelle Un chant de Noël, c'est très court et très beau, c'est en poche d'ailleurs, tout le monde connaît sans forcément l'avoir lu, il y a eu plusieurs adaptations en film et en dessin animé, un Disney notamment, avec Picsou dans le rôle titre, le rôle de Scrooge, ce qui est d'ailleurs le nom de Picsou dans la version originale, je vous le dis en passant, les Américains ne connaissent pas Picsou, ils connaissent Scrooge.
C'est assez logique parce que Picsou en anglais ne veut pas dire grand chose.
Hein. Voilà, exactement. Mais c'est pas non plus une traduction littérale. C'est ce que
je veux dire.
C'est tiré du conte de Dickens.
Taquine.
Scrooge a donc été imaginé par Dickens. Il s'appelle Ebenezer Scrooge. C'est un vieux monsieur aigri, très riche. Il n'aime rien. Il râle tout le temps. C'est un sale type. C'est Mathieu Noël, si vous voulez. Quand son assistant. Vous allez voir, c'est étonnamment proche. Quand son assistant crève de froid dans son bureau en plein hiver, il lui interdit de remettre des bûches pour chauffer la pièce.
Ah, bien sûr, parce que, attention, pensons aux émissions de gaz à effet de serre. Pas trop de bûches.
Il déteste à peu près tout, Scrooge, sauf l'argent. Il n'en fait rien de particulier, juste il le garde. S'il y a il y a quelqu'un qu'il aimait bien quand même, c'était son associé, Jacob Marley, son seul ami, mais il est mort il y a 7 ans. Voilà pour le portrait, nous sommes le soir de Noël, donc avec Scrooge qui est seul, comme toujours, et il s'en félicite. Il rentre chez lui, se complaît dans sa détestation de Noël, il peste contre les chants qu'il entend dans la rue, etc. Il râle encore et toujours.
Mais c'est un conte de Noël, Nicolas, donc il va s'assagir.
Eh bien, bien sûr, grâce à l'intervention de Jacob Marley, ou plutôt son fantôme. Il apparaît d'abord sur le marteau de la porte d'entrée de Scrooge. Quand il rentre chez lui, il voit distinctement son ami. Écoutez ce passage lu par Marc Messier.
Il n'était ni furieux ni féroce, il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevées sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par une haleine ou par des vibrations d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie.
Il faisait livre pour enfants,
et ensuite, Marley va bousculer Scrooge, lui ordonner de changer de comportement. Puis les trois esprits de Noël vont lui rendre visite aussi. L'esprit des Noëls passés, du Noël présent et des Noëls futurs. C'est une nuit qui va tout changer pour Scrooge. Je vous laisse découvrir comment en lisant donc Un chant de Noël de Charles Dickens.
Chers auditeurs, si jamais vous en avez marre de... Vous avez donc maintenant l'alternative idéale pour vos enfants. C'est quand même autrement qualitatif.
Hein, et le dessin animé repasse souvent à Noël. Moi, c'est un peu ma Madeleine.
Oh, qu'il est mignon.
Oh,
oui,
oh,
il est trop mignon.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock, bien sûr, et les invités. Mardi, Mathieu Noël recevait Akhenaton et Shuriken du groupe IAM pour la sortie de leur 10e album Niakoussé. Il y aura d'ailleurs une tournée, première date, le 6 mars 2020 à Grenoble.
Rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation, de dur. Pour tout ça, il
vole. Akhenaton et Shuriken du groupe IAM sont nos invités cet après-midi. Alors là, ceux qui disent que je me sers de mon émission pour recevoir mes idoles, franchement, eh ben ouais, grave. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors IAM, c'est évidemment ça, mais c'est aussi ça en 2019.
Je vandalise le rap, ça me plaît comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent.
Yasuke, nouvel album, comme chaque fois avec vous, on en a pour notre argent, messieurs, pas moins de 16 titres. Moi j'aurais fait 2 albums, comme ça j'étais peinard pendant 4 ans, pas vous. Alors un mot déjà de la pochette qui est sublime, c'est inspiré du radeau de la Méduse de Jéricho, version 2019, avec un mec qui fait un selfie, un banquier qui perd sa chemise, et Yasuke, l'esclave africain qui va devenir samouraï au Japon, on va parler de ce symbole. Mais déjà, en gros, c'est quoi? C'est un portrait du bordel ambiant avec une touche d'optimisme?
Exact, c'est un très bon résumé.
On aurait bien voulu que ce soit l'inverse.
Ouais. C'est plutôt l'inverse, parce qu'on voit la mer est déchaînée,
mais au fond, la mer
est calme.
Nous, ce qu'on a envie de dire à travers cette pochette, c'est qu'on n'est pas forcé d'aimer les gens avec qui on est installé sur le radeau, qui symbolise la société, mais au bout d'un moment, il va falloir
réfléchir
à comment aller dans la même direction.
Mais par contre, on n'a pas le choix, quoi. On est sur le même, il faudra bien qu'on trouve un moyen de s'entendre pour y arriver ensemble. Sinon, on fait plus de gosses, on fait plus rien, enfin.
Quand vous avez créé IAM en 1989, le rap n'était pas encore un courant musical reconnu. On ne savait même pas s'il durerait, ce courant musical. C'était aussi un courant musical lié exclusivement à la jeunesse. Aujourd'hui, on peut le dire, vous avez tous les deux dépassé les 50 ans, vous rappez toujours aussi bien. Et le rap est, lui, devenu une énorme industrie qui domine même toute l'industrie musicale. Est-ce que ça, au tout départ, quand c'était encore artisanal, j'ai envie de dire, vous pouviez imaginer ça?
Je ne pense pas. On a toujours été dans le fait de faire de la musique et de faire un disque, celui qui suit. Et puis après, on verrait ce qui se passe. On n'était pas dans un phénomène de monde. On était persuadé, par contre, que le rap allait durer. Mais en ce qui nous concernait, nous, on était vraiment dans l'immédiat ou le lendemain proche, mais pas du tout la projection dans les années 2000 ou 2010 ou 2020 même. On est très fiers de ce qu'on a fait, et surtout on mesure chaque jour en se levant la chance qu'on a de faire ce qu'on fait.
Alors cet album Yasuke vous ressemble, IAM, il n'est pas manichéen, il est introspectif plus qu'ego trip. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre le rap tel que vous le défendez, tel que vous l'avez toujours conçu, et le rap qui cartonne parfois chez les jeunes? On pense à Booba, on pense à Kaaris, où c'est plus dans l'anathème, où c'est plus une forme de violence. On vous sent très différent.
Ça s'est élargi, c'est tout, ça s'est beaucoup plus diversifié. Le rap que nous pratiquons et qui se pratique encore,
oui, bien sûr.
C'est juste la différence, c'est que c'est plus le rap mainstream. Aujourd'hui, il y a les outils pour aller le chercher, on peut plus dire, on peut plus se plaindre qu'on nous impose la musique. Donc c'est un rap qui se produit encore, qu'on écoute encore, mais c'est juste que c'est plus le rap qui est mis en avant. Ça s'est énormément diversifié, édulcoré, mais le tronc commun, pour nous, ça reste le hip-hop. Après, au fur et à mesure des générations, peut-être qu'on est beaucoup moins à se revendiquer de cette culture, mais c'est pas non plus une obligation non plus. Il y a plein de gens qui font uniquement du rap comme faisant de la musique et de qui on se sent très proche parce que l'état d'esprit, parce que les valeurs de partage et de sont là aussi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Je suis simultanément ému et fier de vous présenter la rencontre au sommet entre trois fiertés de la Côte d'Azur, trois génies des mots qui ont porté haut tout au long de leur carrière notre belle langue française, faisant sonner les mots comme personne, surtout à Akhenaton et Shuriken. Il faut avouer que pour Eva Rock, ce fut parfois plus approximatif.
Je pense, par rapport à tous les autres titres dont il a eu droit.
Auquel il a eu droit. De toute manière, l'heure est venue de les départager enfin. C'est la séquence dont auquel vous attendez tous. Voici le quiz. Le principe est très simple aujourd'hui. Je vous donne des citations, vous me dites rap ou pas rap, selon si d'après vous ces phrases viennent du rap français ou pas du tout. Chacun son tour, c'est parti. Eva Rock, si je vous dis rien de plus sale que l'amour propre, rap ou pas rap?
Qu'est-ce que vous en dites les copains?
Ah bah non, ah bah, Fred Doualty et Jean-Philippe Bannes.
Ils sont pas d'accord avec la tête qu'ils font.
Je le sens pas.
Non, alors on va
ça
dire non.
Ça paraît un peu cliché.
On dit non.
Ça vous paraît un peu cliché, Fred Doualty? Oui, c'est Marguerite Yourcenar, effectivement, pas rap. Ouais. IAM, c'est à vous. Si je vous dis, comme Kennedy, ich bin ein Berliner, et s'il était à Hambourg, il aurait dit ich bin ein Hamburger. Rap? Pas rap. Quelque part, attention à ce que vous allez répondre.
J'espère.
Vous êtes déjà fâché avec John Williams? Attention à ce que vous allez dire, Akhenaton. Je vous aide. J'espère pas rap. Non, je n'aime pas le début de cette phrase, Akhenaton.
J'aimerais pas rap.
J'aimerais pas rap? Oui, rap.
comme Kennedy, je bine un Berliner. S'il était à Hambourg, il aurait dit
MC Solar.
C'est notre ami MC Solar. Qu'est-ce qui s'est passé? MC Solar dans le titre Au clair de la lune. Un ami certainement de
Daya. Oui, bien sûr. Elle est dure celle-là quand même. Claude, elle était dure.
Elle est éclairée là quand même. Il fut éclairé là.
Oui. Et Baroque, si je vous dis, lorsque tu as le cul entre deux chaises, achète-toi un canapé. Rap ou pas rap?
On dirait une pub Ikea.
On dirait du Francky Vincent.
Hein, ouais, Francky Vincent.
Ah,
ah bah oui, bah, justement, ah, tiens, vous savez, on va dire rap.
Bah pas rap, c'était Smaïn.
Ah, c'était Smaïn.
Oui, tout simplement.
Mais c'est un sketch.
Ah bah je ne sais pas, c'est Smaïn.
Mais en même temps, c'est une punchline. Donc.
C'est une punchline, tu vois, ça aurait pu être. IAM, si je vous dis, je me suis déjà mis à la place d'un handicapé, surtout à celle du parking. Rap ou pas rap?
Ça c'est rap.
C'est gangsta.
C'est gangsta rap.
C'est Thug Life rap. Même.
C'est Thug Life. Eh ben non, pas du tout. Mais ça aurait pu. C'est Gaspard Proust. C'est une rap de Gaspard Proust.
Elle est magnifique.
Mais entre le rap et le stand-up, il n'y a pas vraiment de grande
différence. C'est vrai qu'il y a des phrases
c'est vrai
qui
que là, là, c'est vrai que les phrases, elles viennent toutes de quelque chose qu'on pratique régulièrement, nous aussi. Ouais.
Eva Rock.
Oui.
Le husky, c'est un chien de traîneau. Le chihuahua, c'est un chien de traînée. Rap ou pas rap?
Ah bah alors, là, je suis sûre que c'est pas Marguerite Yourcenar. Ah,
visiblement, ça plaît à Kenata et Shuriken.
Ça me fait rigoler, ce genre de conneries.
Allez, je dis oui.
Ouais, rap.
Oui.
Écoutons.
Trois coins pour être charmant ou pour être aimé. Le husky c'est un chien de traîneau, le chihuahua c'est un chien de traînée.
Cette déco.
Cette déco dans la chanson Dodo la Saumure, ça fait beaucoup Dodo de poésie d'un seul coup. IAM, cette question va vous départager, même si je pense que vous allez l'emporter. La vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer. Le problème c'est qu'il y a trop de séries B. Rap ou pas rap?
C'est des c'est paroles bon, de Joe.
Oui.
Alors, je vous mets dans la confidence. Le génial inventeur de ce quiz m'a dit, on sait jamais, ils ont fait tellement de titres, peut-être qu'ils vont oublier. Non, je pense pas qu'ils aient oublié. Bravo. C'est IAM qui remporte le quiz aujourd'hui. Alors, Aminata Shuriken, vous avez démarré début des années 90. Est-ce que, si on vous avait dit à cette époque que 30 ans plus tard, vous seriez là avec un 10e album, est-ce que vous auriez cru que c'était quelque chose du domaine du possible?
On a vraiment, il y a non, toute une partie des années 80.
On s'est jamais projeté si loin. De toute façon, on se projetait sur la tournée qui suivait le disque, et sur le disque qui suivait la tournée, et sur la tournée qui suivait le disque, et ainsi de suite. On se projetait pas si loin, non, pas du tout.
J'ai entendu sur une radio concurrente, mais peut-être que c'était sur Europe 1, un animateur qui était vraiment un peu débutant, vous confondre avec NTM. J'ai entendu ça, on l'entendra peut-être dans les jours qui viennent. NTM, ils ont commencé quasiment en même temps que vous. Il y a eu des rivalités, comme on disait à une époque, ou c'est juste...
Ils ont commencé après, quand même.
Ils ont commencé après.
Moi, j'ai commencé à rapper en 84, en fait. C'est, c'est pas le début des années 90.
J'avais 2 ans.
Voilà, 84. Après, on a commencé à faire nos premiers concerts en 85-86, jouer à rejoindre en 87. Et le premier disque est sorti à New York. Donc en fait, il y a toute une histoire avant de la planète Mars qui est une histoire de scène, en fait, de live. Et on a rencontré NTM au début des années 90. Il n'y avait pas réellement de rivalité, mais je pense qu'il y a...
C'était juste, vous étiez les deux plus gros vendeurs, j'imagine.
C'est,
donc,
c'est aussi, Paris, c'est aussi une histoire, un modèle rock qui est calqué sur un mode, sur,
oui,
sur,
c'est
sur
ça,
le rap.
C'est les Beatles
en fait.
Et les Rolling Stones, voilà. Quoi. Et ça marche bien. Ça marche ça bien marche pour les bien, deux, en fait.
Pour les deux.
Voilà. Yasuke, c'est le titre de leur 10e album. L'équipe d'IAM est avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Il est 17h30 et on reste bien sûr avec Mathieu Noël pour les meilleurs moments de la semaine. 16h-18h sur Europe 1. Mathieu Noël entouré d'Eva Rock et à présent d'Anis Mbida dont on va découvrir le sujet. C'était mercredi en présence d'Alex Jaffray. Alex Jaffray actuellement en spectacle avec Le Son d'Alex au Théâtre République à Paris tous les mercredis et jeudis à 20h.
Anissé, la dernière fois que vous deviez nous donner des conseils pour savoir si un programme présentait un danger de virus ou pas, vous aviez commencé assez fort avec ce conseil.
Il y a plusieurs méthodes et la première méthode c'est doigts mouillés, hein, tout simplement.
Alors je vous conseille, si vous souhaitez gagner, d'essayer de nous donner un conseil un peu mieux cette fois-ci. Quel bon conseil avez-vous aujourd'hui, Anissé?
Ouais, la semaine dernière c'était Black Friday.
Ouais.
Ça. Vous vous en souvenez, malgré les appels au boycott, vous savez que ça a cartonné, on a battu tous les records de vente. Pourquoi? Bah parce que la plupart des sites ont utilisé aujourd'hui des techniques peu recommandables pour vous faire dépenser plus. Alors on a
déjà,
tous fait
moi j'ai reçu déjà 10 000 textos.
Ah bah oui, bien sûr.
Pour me dire qu'il y avait moins 20, ensuite moins 30, ensuite moins 35, moins 40, mais c'est
fois,
légal
les
de faire ça?
Les moins 20%, des fois on avait un centime, des fois c'était même plus cher, c'était n'importe quoi, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Et quand vous allez acheter sur Internet, vous avez souvent la première astuce que l'on voit, c'est le compteur. 53 personnes ont acheté la même offre, 65 personnes sont en train de regarder
ça,
cette
page. Ça, c'est
bidonné ? C'est complètement bidonné. Il y a une étude américaine qui est sortie qui dit que 40% de ces offres sont complètement bidonnées, de ces chiffres sont complètement faux. Et nous, on se précipite pour acheter parce qu'on se dit, si on n'y est pas...
Attendez,
non seulement vous allez voir le point, mais j'ai une question. Ça veut dire que là, on parle de Black Friday, on parle d'opérations commerciales particulières dans le temps.
C'est tout le temps comme ça.
Sur le site Booking, pour ne pas le citer, quand ils mettent, il ne reste plus qu'une chambre, c'est bidon ?
Il n'y a que vous qui le croyez. Mais c'est pas grave.
Ah bah non, pour moi je le crois.
Enfin, mais parce que oui,
il y a des chambres qui sont plus disponibles.
Il ne reste qu'une chambre offerte par Booking, mais l'hôtel, lui, il en a sous le pied.
Voilà, vous avez
exactement.
Une petite
salle. C'est exactement comme les places de spectacle. Chacun a son allocation. Carrefour, etc. Chacun a son allocation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chambres.
Donc il faut arrêter de stresser et tout de suite mettre sa carte de crédit comme
alors,
je le fais.
Alors encore Booking, c'est des chambres d'hôtel, mais souvent c'est des produits, une télé, un vase ou n'importe quoi. Et parfois c'est complètement bidon. Tout ça. Et aussi le compte à rebours, il ne vous reste plus que 10 minutes pour commander, après il sera trop tard. Dépêchez-vous, on va être en retour de stock. C'est n'importe quoi parce que le site de commerce électronique n'a aucun intérêt de vous proposer des produits qui ne sont plus en stock. Et ils ont tous des systèmes de rapprovisionnement automatiques. Ils se rendent compte où là, on est bientôt en rupture de stock. Et donc, ils commandent automatiquement. Donc, tous ces systèmes-là sont complètement faux. Ça a été révélé par une étude. Donc, moi, je vais vous donner des petites astuces pour justement pas se faire avoir, pas payer trop cher. La première, tout simplement, c'est de basculer son navigateur en navigation privée, en mode privé.
Qu'est-ce que ça change ?
Ça change.
Ça, c'est pour aller sur YouPorn, me disait Eva.
Non. C'est pour aller sur Booking, par exemple.
Ah bon ?
Ça vous permet de ne pas être pisté, parce que souvent, ils voient que c'est excellent pour les billets d'avion. Souvent, les billets d'avion, on vous voit, vous testez, vous regardez la destination, vous regardez le prix. Et puis, vous ne regardez pas. Vous revenez 10 minutes après ou une heure après, le prix est plus cher. Exactement pour les chambres d'hôtel. Vous cherchez une chambre d'hôtel à tel endroit, vous revenez 10 minutes après, c'est plus cher. En étant en navigation privée, il ne peut pas vous pister, il ne peut pas vous suivre.
Pour se mettre en navigation privée.
Dans le menu du navigateur, ouvrez une nouvelle fenêtre de navigation privée et là, il n'y a plus de pistage. Et donc, on ne sait pas que c'est vous qui revenez et donc, on ne peut pas vous donner un prix plus cher.
On a le bon prix.
Voilà, vous avez le prix normal. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de mettre un produit dans le panier, le supprimer, attendre et revenir le mettre dans le panier. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça va faire quoi ?
Ça, c'est aussi pour les suivis. Oui. C'est parce que souvent, ils se disent « Ouh là là, la personne voulait acheter, elle n'a pas acheté, elle revient, on veut absolument la ferrer. » Et dans ces cas-là, on vous donne un code promo, par exemple, 5%, 3%.
Ah oui, j'ai déjà eu ça.
Et ça vous permet de payer un petit peu moins cher.
Ça marche dans la vraie vie ? J'achète une baguette. Non, en fait, j'en veux pas. Je ressors du magasin. Ah, j'ai gagné. Ça marche ou pas ?
Au marché, ça marche très bien. Au marché aux puces, je suis sûr que si vous revenez 10 minutes après, ça fonctionne très bien. Autre pratique sournoise, c'est l'ajout automatique dans le panier. C'est-à-dire que vous avez acheté un truc 99,99€ et vous arrivez au panier, vous avez 120€. Pourquoi ? Bah parce qu'on vous donne une assurance gratuite, une extension de garantie, un abonnement à je ne sais quel produit gratuit,
etc. Il faut les décocher. Et si on décoche pas, on se retrouve
à payer plus cher, on a la livraison premium alors qu'on a une livraison normale, suffit largement. Une autre astuce pour les billets d'avion cette fois, c'est un peu compliqué, mais achetez vos billets d'avion à 3h du matin.
C'est le bon moment ?
C'est le meilleur moment pour acheter son billet d'avion parce que justement, ils ont fait des calculs. Comme il y a moins de gens qui achètent à 3h du matin.
Attendez, Jean-Kéva, une bonne question. Oui. Oui, Eva.
Imaginons que je mette en application cette règle du 3h du
et
matin.
Et 3h du matin, vous êtes accompagné, par exemple.
Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Mais imaginez que je suis au Japon. Est-ce que le décalage horaire, ça marche ou pas ?
Non, parce qu'évidemment, ils géolocalisent, ils savent où vous êtes, ils savent qu'il est 3h du matin au Japon, il est 3h du matin à Paris. Donc, on ne peut pas tricher de ce côté-là.
Je rejoins ce que vous disiez. Quand j'achète un truc à 3h du matin, c'est que généralement, je suis ivre et à 8h, je regrette. Mais amèrement, quoi.
Bon, c'est quoi ces billets pour la Nouvelle-Zélande ? 5 billets !
En revanche, là où Eva a raison, c'est que si vous le faites d'une location de voiture, ne la louez pas à partir du site français. Louez-la à partir d'un site belge ou un site américain ou un site allemand, vous aurez un prix inférieur. C'est un citoyen français, c'est complètement
c'est
stupide.
Dingue, ça.
C'est complètement stupide, c'est comme ça. Parce qu'ils préfèrent justement attirer beaucoup plus d'étrangers que d'attirer les Français. J'ai plein d'autres conseils comme ça. Il y a un site qui s'appelle Google Flight. C'est un site de Google qui permet d'avoir les tarifs et de voir des alertes automatiquement. Il vous dit quand le billet est le moins cher. Et sinon, il y a des sites comme Deal Labs. Et là, c'est des internautes qui s'échangent les bonnes pratiques, les bonnes astuces. Attention, ça, c'est pas une bonne promo. Attention aux mentions légales. On dit, voilà, je vais acheter telle télé, je vais acheter tel produit. On reçoit une alerte quand le prix est le moins cher. C'est extrêmement pratique. Ne vous faites pas avoir par tous ces sites qui vous attirent, qui vous demandent d'acheter tout de suite, payer tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et à présent Anne Le Gall, c'était jeudi en présence du trompettiste Ibrahim Malouf.
Avant d'entamer notre chronique, Anne, je propose une parenthèse Malouf. Voilà, on respire fort, on écoute quelques notes d'All I Can Say, extrait du nouvel album de notre invité Ibrahim Malouf. On se donne la main Et ensemble, on reprend confiance dans l'homme. Anne, dites-nous ce qui vous tracasse.
C'est vrai que ça fait du bien la musique. Bon, on va pas tous crever.
Ça, c'est une grande pensée.
Non, mais ça fait du bien. Bon, on va pas tous crever tout de suite. Le propos va être un petit peu plus nuancé. Mais c'est vrai qu'en matière de réchauffement climatique, souvent, on est sur des temps longs. Quand on parle de l'accord de Paris, on dit qu'on va limiter la hausse des températures à 2 degrés à l'horizon 2100. On se dit, bah, c'est bon, on a le temps. Mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est pas parce que l'évolution est lente dans le climat qu'elle n'est pas dangereuse. Exactement. Parce que les scientifiques savent qu'il y a des seuils à partir desquels il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou c'est comme la casserole de lait sur le feu. Une seconde après, elle déborde. Et c'est ce qu'on appelle les tipping points, donc les points de basculement. Une fois qu'on les a franchis, il est impossible de réparer les dégâts que l'homme a causés sur l'environnement.
Mais alors, ça correspond à quel type de dégradation, par exemple ?
Alors, par exemple, un des tipping points, c'est la fonte du permafrost. Le permafrost, vous savez, ce sont ces terres gelées qui sont en permanence gelées en Sibérie ou au nord du Canada. Ces sols renferment un gaz qui est 23 fois plus polluant que le CO2, c'est le méthane. Donc, si le sol dégèle, le gaz enfermé dans le sol va partir dans l'atmosphère. Et donc là, c'est pareil, on enchaîne, on aura un cycle de réchauffement. Et donc ça, c'est par exemple un tipping point. Le problème, c'est que on ne sait pas quand on va atteindre ces seuils, on ne sait pas quand le moment va arriver. D'où cette métaphore qu'utilise François Gemène pour expliquer cette situation. Il est spécialiste en géopolitique du climat et il est l'auteur de l'excellent Atlas de l'Anthropocène aux éditions Sciences Po. Voici sa métaphore sur les tipping points.
C'est un peu comme si on poussait un immense rocher sur le flanc d'une colline. En montant cette colline, on sait bien qu'à partir du moment où on arrivera au sommet de la colline, le rocher va dévaler l'autre pente sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais évidemment, comme le rocher nous obstrue la vue, on ne sait pas exactement à quel moment on va atteindre le sommet de la colline.
Voilà, on ne sait pas, mais si on a choisi l'objectif de moins 2 degrés de réchauffement, c'est parce qu'on se dit en dessous de 2 degrés, normalement, il ne devrait rien se passer. On ne devrait pas atteindre ces seuils de dépassement. Ça, c'était ce qu'on disait au moment de la COP21 à Paris. Le problème, c'est qu'on en est un petit peu moins sûr aujourd'hui, d'où ces appels des scientifiques qui se disent bah là, on est peut-être à la limite de franchir ces points de basculement.
Mais Anne, comment on fait pour rester optimiste ?
Alors, c'est la question effectivement que j'ai posée à François Gemène, et lui, il est plus optimiste qu'il y a un an parce qu'il se dit qu'il y a quand même une prise de conscience dans la population, notamment dans les jeunes générations, une prise de conscience citoyenne sur les enjeux climatiques.
Mais attendez, les prises de conscience, si on a Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, on a beau prendre conscience, nous, à notre échelle, alors, on va avoir du mal.
Et c'est peut-être justement un tipping point social. C'est-à-dire que là, il se passe des choses du côté des citoyens. Peut-être que les citoyens ont un temps d'avance, et notamment les jeunes générations ont un temps d'avance sur le système politique et le système économique. Mais peut-être qu'à un moment, justement, il y aura ce basculement social qui fait que par les urnes, en fait, on pourra enchaîner toute une série de transformations qui pourront durablement impacter le climat.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Oui, 2 heures quotidiennes de bonne humeur et d'infos, c'est ça l'équipée sauvage. On arrive d'ailleurs au terme de cette compilation des moments qu'il aurait été dommage de manquer. La séance de rattrapage, c'est le week-end. Il y a aussi les podcasts sur Europe1.fr. Et on va donc retrouver Mathieu Noël. Vendredi dernier, il recevait l'humoriste Le Comte de Boudherbala. C'était lors de l'émission En Public.
Accueillons notre invité d'honneur cet après-midi, un comte, mesdames et messieurs. Oui, enfin, le comte de Boudherbala. Bonjour Sami Amezian. Comment dois-je dire votre altesse, votre comment il faut s'adresser à vous en fait.
On va rester simple, Sami, ça ira.
Sami, ça ira. Sami Amezian, alias donc le comte de Boudherbala, on est heureux de vous recevoir car au-delà de votre humour ravageur qu'on connaît, vous avez aussi un destin étonnant qu'on connaît moins. Vous avez percé dans l'humour, vous avez même aujourd'hui votre théâtre, le République à Paris, mais votre rêve de gosse, c'était de devenir basketteur professionnel et vous avez presque réussi.
J'étais à deux doigts, il me manquait 20 cm.
Pas de réflexion, Eva.
Comme souvent.
J'ai rien dit.
Vous racontez cette aventure incroyable dans un livre qui s'appelle Amazing, dans lequel vous revenez sur votre parcours incroyable. Avant d'être humoriste, vous avez été basketteur en France, dans l'équipe nationale d'Algérie aussi. En 2004, grâce à un échange universitaire franco-américain, vous avez intégré pendant une saison l'une des équipes universitaires les plus prestigieuses, celle des Huskies de l'Université du Connecticut. Rappelons déjà ce que ça représente, le championnat universitaire américain. Parce que si on ne connaît pas, on se dit universitaire, c'est des débutants.
Non,
c'est genre, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que le championnat de France. C'est du très haut niveau. C'est l'antichambre de la NBA. Quoi.
Ouais, imaginez l'équipe de France championne du monde qui jouerait 3 fois par semaine dans une ambiance survoltée avec des pom-pom girls. Pas des majorettes, hein, des pom-pom girls. Mais ouais, non, une ambiance de fou qui est compliquée à décrire tellement c'est grandiose, quand c'est haletant, c'est à l'américaine, quoi. Donc ouais, c'est un rêve d'enfant d'être pris dans cette équipe-là.
Alors évidemment, vous racontez le côté sportif, mais c'est pas un livre sportif, c'est presque un guide de développement personnel. Chacun peut s'y reconnaître dans ce livre. Vous défendez.
Je fais d'ailleurs des conférences, Mathieu.
Bah, j'imagine, j'imagine. Vous pourriez.
Avec Raël. Je sais pas si vous connaissez.
La base que vous avez découvert, c'est la philosophie américaine, un petit peu le en fait, il suffit de bosser, on peut y arriver, quoi.
Ouais, il y a ça, et puis c'est surtout l'histoire d'un mec qui est coincé en France, qui y a un plafond de verre, ouais. Et sportivement, il galère, quoi. C'est mon histoire, dans le sens où moi, je commence à jouer au basket à 11 ans, j'arrive à avoir un premier contrat pro à 20 ans, deuxième division, un contrat de 5 ans. Et à l'issue d'une blessure idiote, je me retrouve à 21 ans en 4e division, à 25 ans en 5e, donc j'étais en toboggan de loose. Et à un moment, je voyais mes potes partir en Euroleague, en NBA, je me dis bon, il faut que j'arrête de regarder les trains passer. Et moi, j'ai eu la chance de continuer mes études à l'université de Paris 8. Et un jour, en galérant dans les couloirs, je vois cette affiche pour partir aux États-Unis à moindre frais. Et donc, je postule. Et avec cet échange, j'avais la chance de payer les droits d'inscription universitaire français, 400 euros à la place des droits américains, 40 000 $.
Ça, c'est intéressant.
Formidable, ouais. Pour un fauché comme moi. Donc, je postule. Mais il fallait avoir 10 000 euros sur son compte pour pouvoir partir. Donc, à l'issue de cette année, il y a toute une solidarité familiale qui se met en place autour de moi pour avoir cette somme. Et finalement, j'arrive à partir.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
En public aujourd'hui, et en présence de Sami Amezian, Sami Amazing, comme on l'appelait aux États-Unis lorsqu'il enflammait les parquets et qu'il n'était pas encore le comte de Bouderbala, du basket à l'humour, une trajectoire que j'ai moi-même connue, même s'il faudrait plutôt parler d'humour involontaire, la fois où j'avais tenté de parler basket et de livrer mon analyse sur la carrière de Michael Jordan.
Et vous savez, un petit plus sur Michael Jordan, c'est qu'il n'a pas été drafté. Les meilleurs joueurs d'université sont sélectionnés par les clubs. Le premier club, je cherchais, je n'ai pas trouvé, mais il a été drafté beaucoup plus loin. Comme quoi, chers sportifs qui nous écoutez, on a toujours une marge de progression, il faut croire en ses rêves.
Ouais, voilà. Heureusement que certains ont une marge de progression, hein, parce que sinon, ils auraient pu arrêter leur carrière radio tout de suite. J'en ai tiré les conséquences en décidant de me retirer de la vie du commentateur sportif.
On a perdu une
à jamais.
Mais t'as raison en plus, parce que. Non, en fait.
Oui, mais je vais pas l'expliquer.
Non, t'as presque raison, parce qu'en fait, Michael Jordan, il s'est fait jeter de son équipe du lycée. Après, il s'est fait drafter. Mais en fait, à la base, dans la high school, ouais. Le lycée, il s'est fait jeter par son entraîneur. Il disait qu'il était trop petit. Il disait t'es trop petit, t'es mauvais.
Il était pas petit, Michael Jordan.
Il était en fait.
En 90, en 92.
Non, mais en un été, il a pris 20 cm. C'est pour ça que je me dis, c'est jamais mort. J'attends l'été avec impatience. Dieu, aide-moi. Donne-moi 20 cm cet été.
T'as bien donné des chansons à Stevie Wonder, tu peux me donner 20 cm. Est-ce qu'il y a un pont entre l'humour, et entre le sport, le basket et l'humour ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez appris des choses là-bas pendant cette année d'entraînement intensif que vous avez ensuite répercuté dans votre manière de travailler l'humour ?
Bah oui, bah déjà, forcément, la discipline sportive et la discipline d'écriture, c'est la même chose, c'est de la répétition. C'est-à-dire que le basket, c'est comme il me disait mon coach serbe, il disait « Sami, basket, c'est répétition. C'est joué 2000 fois, 2000 dribbling, 2000 double pas. » C'est vrai, il avait raison. C'est que on répète toujours les mêmes. Et donc, nous, ça devient laborieux pour nous. Mais après, ce sont des automatismes. Et là, bah, l'humour, c'est exactement la même chose. C'est t'écris, tu testes, tu vois si ça marche. Et après, tu répètes, tu amplifies. C'est toujours pareil. Après, il y a aussi des similitudes sur l'humour, l'humour de vestiaire. On est là, quand t'es tout petit, t'es face à des mecs, des colosses qui font 2m12. Bon, voilà, ils te bousculent, t'es obligé soit de les taper, soit de les charrier.
Vous avez choisi votre
préfère temps. Les charrier.
Et vous charriez aussi sur l'habillement, visiblement. Eux, ils étaient très classe et vous étiez un petit peu moins classe, disons.
Ah, j'arrive en dégueulasse.
Un t-shirt I Love Italy, totalement.
Ah ouais, en fait, c'était ma marque de fabrique. Je n'ai jamais été habillé. Donc, je veux dire.
Calmez-vous. Il veut dire, pas très bien habillé.
Je veux dire, j'arrivais sur le terrain de basket. Les mecs avaient des trucs, des baskets et tout. Moi, mon père, à l'époque, me donnait 50 francs. C'était les francs. Au lieu d'acheter une paire de baskets, j'achetais 5 paires à 10 francs.
Bon, tu t'imagines
vous
un peu.
Vous avez une grande garde-robe, mais.
Je t'explique, une fois, je fais un essai à Poissy pour le centre de formation et j'avais gratté les baskets de mon frère. Et tu sais, tu fais le test de basket et moi, je joue, donc je donne tout à fond. Et à un moment, le coach m'arrête, fait toi, s'il te plaît. Moi, il m'interpelle. Moi, je me dis, bon, bah, c'est bon. Suis pris dans le centre de formation, ma vie est assurée. Il me dit, oui, toi, tu peux retirer tes baskets, regarde les traces que tu fais sur le terrain. Mais en fait, j'avais fait des traces de pneus Michelin sur tout le terrain.
Il a connu quelques petits moments de solitude, hein, le comte de Blervala, avant de connaître la gloire.
Ah, mais moi, si je te raconte des histoires, tu pleures de rire. Mais j'ai tellement eu. Bah, pareil, des coachs qui m'humiliaient. À la fin, tu vois, chaque semaine, tu as le match et toujours ce coach serbe. Non, là, c'était un coach croate et il faisait la composition de l'équipe. Donc, il disait que c'est vendredi, gros match. Demain, 2000 Deutschmark, gagné. Que c'est l'équipe, Eve, Jérôme, Farid, Frédéric. Et là, il me regardait, il faisait Steve. Oh, il me faisait miroiter le Samy et il mettait son doigt sur moi, et il tournait son doigt à la fin, il disait Steve.
C'est horrible.
Et chaque vendredi, je restais en galère et tous les autres morts de rire. Moi, on m'a fracassé au basket. Mais après, ça te forme. Mais après, moi, j'ai jamais lâché l'affaire. Moi, je me suis dit, c'est pas un entraîneur qui va t'empêcher d'avoir ta passion. Parce que l'entraîneur, c'est juste une personne qui te donne la possibilité de jouer. C'est pour ça que le milieu de l'humour, il est exceptionnel. C'est le public qui nous donne l'opportunité. On n'a pas un coach qui dit va sur le terrain. C'est super. C'est vous, c'est le public, que je remercie d'ailleurs. C'est vrai.
Et vous retrouverez Mathieu Noël et son équipe sauvage, Eva Rock, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 et les invités dès demain 16h. Il y a Ibrahim Malouf, bien sûr, Alex Jaffré, Patrick Peloux, Akhenaton Shuriken du groupe Ayam et le comte de Boudherbala pour les meilleurs moments de la semaine. À suivre, Wendy Bouchard pour faire le tour de l'actu jusqu'à 20h sur Europe 1. C'est le grand journal du soir. Bonne fin de journée avec nous.